12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Je vous accompagne jusqu'à 14h avec Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre grand journal de la rédaction avec Pierre de Villeneuve. Et juste après, la France bouge. Et aujourd'hui, elle secoue le monde de la cantine et de la restauration collective. On vous attend à l'heure du déjeuner.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et c'est encore Notre-Dame qui est au cœur de nos préoccupations.
Et en particulier de celle du président de la République. Emmanuel Macron présidera à 16h une réunion pour le lancement de la reconstruction de Notre-Dame. Nous serons au Conseil des ministres dans quelques instants puisqu'un encadrement est même prévu autour de cela. D'autre part, on s'inquiète, c'est vrai, parce que le ministre de la Culture nous annonce des risques d'effondrement pour deux pignons de la cathédrale. La bonne nouvelle, en revanche, alors qu'on croyait, on le croyait fondu dans le brasier, le coq qui trônait en haut de la flèche a été retrouvé quasi intact. Dans ce journal, nous enquêterons sur les deux alertes incendie. 23 minutes ont-elles véritablement été gaspillées avant d'appeler les pompiers? Et puis nous nous intéresserons à ce challenge que lance Emmanuel Macron, reconstruire à l'identique en 5 ans. Faisable? La réponse dans ce journal. À suivre également dans l'actualité, Emmanuel Macron, colère après les fuites dans la presse de l'allocution qu'il s'apprêtait à prononcer pour clore le grand débat. Focus sur les deux mesures essentielles. Une page politique qui se tourne, c'était hier soir au Parlement européen. Jean-Marie Le Pen, bientôt 91 ans, tire sa révérence. C'est fini pour la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Et puis comme tous les mercredis, vos sorties ciné avec Mathieu Charrier. La météo, Elena Morna, on se dirige vers l'été.
Et ça va durer le temps du week-end, surtout sur la partie nord. On aura quelques nuances sur le sud. Alors votre après-midi sera déjà bien lumineuse et des températures quasi estivales, en tout cas sur les régions de l'ouest, avec 20 à 25 degrés attendus de Brest à Biarritz.
Merci Elena. On vous retrouve pour une météo complète juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Presque 48 heures après le terrible incendie, la cathédrale Notre-Dame de Paris fait toujours, Pierre, l'objet des plus grandes attentions.
Et ce soir à 18h50, heure du drame, toutes les cathédrales de France, elles sont une centaine, sonneront les cloches en hommage à cette tragédie. Pour l'heure, la priorité des équipes de secours, c'est de maintenir l'édifice, éviter qu'il s'effondre. Il y a encore des risques pour deux pignons, a dit le ministre de la Culture, Franck Riester. Mais comme quand il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, on préfère commencer par la bonne. Jeanne Bergaoui, vous êtes devant le parvis de Notre-Dame. Cette bonne nouvelle, eh bien, c'est que le coq qui trônait en haut de la flèche qui s'est effondrée a été retrouvé quasi intact.
Effectivement, on le croyait disparu à jamais, fondu dans l'incendie. Ce coq en bronze a finalement été retrouvé hier au milieu des décombres, un peu cabossé, mais entier. Dans la chute de la flèche, plus de 90 mètres de hauteur, il s'est détaché et il est tombé loin des flammes. Alors cette girouette, elle est considérée comme un paratonnerre spirituel censé protéger les Parisiens. Le coq contient des reliques, reste désormais à vérifier si elles sont toujours bien présentes et surtout dans quel état.
Jeanne, nous évoquions la structure, c'est bien là tout le problème. Est-ce qu'on doit craindre, comme l'a dit Franck Riester, un éventuel effondrement de deux des pignons ?
Eh bien oui, c'est le risque ici. La priorité aujourd'hui, c'est le pignon du transept nord, ce triangle de pierre au-dessus de Grande Rosace. Par mesure de précaution, des morceaux vont être démontés dans la journée pour éviter qu'ils ne s'écroulent dans la rue adjacente. Le pignon central triangulaire entre les deux tours reste, lui, sous surveillance. Autour de Notre-Dame, le périmètre reste bouclé. En ce moment, des pompiers sont déployés sur la façade du monument, mais aussi à l'intérieur pour de nouvelles vérifications. Il faut consolider l'édifice, mis à rude épreuve par des températures extrêmes, jusqu'à 800 degrés. Puis la pierre, le calcaire, le mortier ont ensuite été arrosés pendant des heures. La chaleur et l'eau ont pu endommager les joints qui permettent de tenir les pierres ensemble. Tout cela a donc fragilisé le monument. Et désormais, c'est un travail minutieux d'enquête qui commence. Les architectes vont procéder au diagnostic de l'ensemble de l'édifice, pierre par pierre.
Merci Jeanne Bergaoui en direct du parvis de Notre-Dame de Paris pour Europe 1.
Et il y a une autre question qui turlupine beaucoup de Français, Pierre, c'est le timing de l'intervention. On le sait maintenant, il y a eu deux alarmes, une à 18h20, une autre à 18h43. Cela fait donc 23 minutes de différence.
Et ce sont ces 23 minutes qui posent question. Bonjour Justin Morin.
Bonjour Pierre.
Vous allez nous refaire le film à l'intérieur du PC de sécurité de la cathédrale Pourquoi, Justin, les agents de sécurité n'ont-ils pas réagi au premier coup ?
Alors reprenons depuis le début. À 18h15, l'office commence. 18h20, un point rouge clignote sur l'écran de contrôle des agents de sécurité. C'est la première alerte. Un détecteur anti-incendie signale une anomalie. Un des officiers chargé d'aller vérifier dans la zone indiquée. Et d'après le procureur de Paris, il ne trouve rien. Pourtant, le protocole à suivre est extrêmement précis, explique Benjamin Mouton. Il est ancien architecte en chef à Notre-Dame de Paris. C'est lui qui a fait installer tout le dispositif anti-incendie début 2010.
C'est un protocole qui a été mis en place avec le clergé. Le clergé a dit, écoutez, s'il y a une alarme qui se déclenche sans raison, pas la peine d'affoler les fidèles qui sont dans la cathédrale. S'il y a une véritable alarme qui se déclenche, vous nous prévenez et nous, on va dire au micro calmement, vous devez sortir.
Donc, si l'alarme est lancée, c'est que le feu est avéré.
Oui, oui, tout à fait.
Or, d'après l'organiste de l'office, ce message d'évacuation, il résonne bien dans la cathédrale, mais peu de temps après la première alerte. Donc si l'évacuation a lieu, c'est donc qu'on a bien découvert un foyer avant la seconde alerte de 18h43. Cette hypothèse, les enquêteurs s'y intéressent de près. Ils ont interrogé les agents de sécurité de Notre-Dame. Et ce qui ressort d'après le Parisien, c'est qu'à 18h20, un bug informatique aurait signalé un mauvais secteur à l'officier parti faire la vérification. Il ne serait tombé sur le feu qu'au retour de sa ronde. Quelques précieuses minutes de perdu avant l'intervention des pompiers.
Merci de ces détails, Justin Morin.
Alors voilà, Emmanuel Macron, dans sa verve habituelle, a donné le là. Le président, dans son allocution télé hier soir, a souhaité que Notre-Dame de Paris soit rebâtie plus belle encore d'ici 5 années.
Reste à savoir ce que veut dire « plus belle encore ». Mais lorsqu'on entend les anciens architectes qui ont travaillé sur l'édifice, beaucoup voudraient une reconstruction à l'identique, c'est-à-dire avec une charpente en bois. Et vous me dites, Pierre Herbulot, que d'après les spécialistes que vous avez interrogés, à l'identique, en 5 ans, c'est juste impossible.
C'est un non catégorique, Pierre. Restaurer Notre-Dame à l'identique, ça veut dire installer donc cette fameuse charpente en bois de chêne. Contrairement à ce qu'on a pu lire ici ou là, on n'en manque pas. Le problème, c'est que ça prend du temps. Il faut d'abord sécher et ressuyer le bois avant la pose. Ça permet de sortir le tanin et ça, c'est 5 ans minimum. On arrive déjà au délai d'Emmanuel Macron à l'identique, donc c'est non. La question pourrait se poser avec des matériaux plus récents, du béton armé comme dans la cathédrale de Reims, pourquoi pas une armature métallique. Les visiteurs ne la verraient pas de toute façon. Mais là encore, c'est mission impossible pour Fabien Pelletier, président des ateliers Perrault charpentier depuis 1760.
Il va d'abord falloir sécuriser le bâtiment, c'est-à-dire d'aller regarder si les murs n'ont pas bougé. Après, il va falloir enlever l'échafaudage qui est en place et qui a chauffé, qui a fondu, donc ça va prendre un grand temps. Il va falloir monter ce qu'on appelle un parapluie tout autour de Notre-Dame pour l'envelopper, pour pouvoir travailler au sec et protéger ce qu'il y a à l'intérieur. De déblayer les morceaux de bois, de plomb fondu qui vont être... Enfin bref, là on parle déjà en termes d'années avant de pouvoir poser une charpente.
D'après les professionnels, il y a donc d'un côté les annonces politiques, de l'autre les réalités du métier. Et dans le métier, on ne se risque pas à donner un délai aussi court avant l'audit sur l'ampleur des dégâts. Un travail de plusieurs mois déjà. Les experts ne se mouillent pas, mais quand on insiste, ils finissent par lâcher les mots « décennie minimum ». Tout dépend aussi de ce que le mot « reconstruction » veut dire en politique, si c'est au sens propre ou si c'est la réouverture d'une partie de la cathédrale seulement.
Mais c'est sûr qu'on va s'attendre à une guerre des délais dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Pierre Herbulot. Avant de reconstruire, il faut en effet poser à plat tous les détails. Et c'est pour cela qu'on fait appel à l'un des 5 laboratoires spécialisés de la police scientifique. Une enquête méticuleuse commence. Comment les policiers vont-ils procéder ? Notre correspondant à Toulouse, Benjamin Peter, est allé voir dans le laboratoire de sa région. Reportage.
Il faut d'abord figer la scène, éventuellement la modéliser en 3D pour garder une trace de tous les éléments, recueillir aussi des photos, des vidéos de témoins et dès que le lieu est sécurisé, quadriller la zone pour identifier ce qui aurait pu provoquer un départ de feu, comme l'explique Véronique Vidotto, la responsable du service incendie et explosion.
On va faire l'inventaire de toutes les sources d'énergie. Ça peut être une cause due à une activité humaine, dans des travaux, par point chaud. Ça peut être un mégot, il y a les causes électriques. Tout ce qui est susceptible de donner cette énergie d'activation, en fait.
Pour vérifier hypothèse, on va remonter le temps, parce que si pour un profane l'incendie n'est qu'un chaos, pour un spécialiste comme Dominique Deharaud, le directeur adjoint du laboratoire, la propagation répond à une logique.
On a un comportement vivant ou humain. Le feu a besoin de manger, donc ça c'est le combustible, il a besoin de respirer, c'est l'air, et on va pouvoir suivre son cheminement. Ce que les gens ont pu apercevoir, ce sont les premières manifestations de l'incendie. Il a très bien pu démarrer à quelques dizaines de mètres de là, trouver un moyen de développement. Nos collègues de la préfecture de Paris, du labo central, vont remonter cette logique.
Le suivi du déclenchement des alarmes pourrait aussi permettre de restreindre la zone d'investigation, mais ce qui est certain, c'est que c'est un travail méticuleux qui, sur un chantier de cette ampleur, pourrait prendre de longues semaines. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Il est 12h39, la suite du journal sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et Europe 1, vous l'apprenez dès ce matin, la famille Pinault renonce à sa déduction d'impôt quant au don de 100 millions d'euros.
Une décision importante parce que c'est vrai, chaque don est défiscalisable. On va voir ça en détail avec vous François Geffrier, mais d'abord, le nombre de dons atteints à l'heure où l'on parle est totalement extraordinaire.
Oui, je viens de regarder mon petit compteur, on en est à 803 935 000 euros et ça va encore augmenter. D'abord parce que les cagnottes en ligne montent lentement mais sûrement. Le gouvernement, hier soir, a mis en ligne un site qui recense les principales plateformes de dons. Ce site, c'est rebâtirnotredame.gouv.fr. Ça va monter aussi parce que certaines entreprises vont donner de l'argent mais n'ont pas encore dit combien. PSA, Engie, Air Liquide ou Pernod Ricard ont besoin généralement d'un conseil d'administration pour valider leurs dons avant de communiquer le montant. La famille Pinault, elle, a donc décidé que sa donation de 100 millions d'euros ne ferait l'objet d'aucune déduction fiscale. Pas question d'en faire porter la charge aux contribuables français, indique-t-elle. Pourquoi cette précision ? Parce qu'une entreprise qui verse un don de 100 euros peut retirer 60 euros de ses impôts. Quand vous parlez en millions, ça coûte beaucoup à l'État. Certains critiquent donc la potentielle optimisation fiscale des grandes fortunes. Du côté du groupe LVMH et de la famille Arnault, qui ont fait, eux, un don de 200 millions d'euros, on ne veut pas faire de commentaires. D'autant plus que ces déductions fiscales sont plafonnées, il y a une limite, et ces grands groupes sont déjà généralement des donateurs et des mécènes.
Merci François Geffrier du Service économie d'Europe 1. Et les enfants, alors, qu'en pensent-ils de ce drame ? Ils sont parfaitement conscients de ce qui s'est passé. Écoutons-les, ils sont au micro de Justin Morin.
Quand je l'ai vu, c'était un petit peu choquant parce que ça fait depuis longtemps qu'il y a Notre-Dame et c'est un grand monument.
On est triste que Notre-Dame allait brûler parce qu'elle a vécu deux guerres et...
Il paraît qu'il y a juste la couronne qui a été sauvée.
Oui, ils ont réussi à sauver les murs dans la cathédrale. Donc je me suis sentie bien quand j'ai su que les pompiers ont réussi à arrêter.
Heureuse que le feu il s'est éteint.
Moi je vois surtout du positif parce qu'on a sauvé la plupart des statues. Et il va falloir beaucoup de temps pour le réparer quand même.
Et toi tu veux aider ?
Ah, je sais pas. Quand je serai grand.
Non, je suis trop petite, moi.
Je soutiens ceux qui vont le faire, mais je ne suis pas volontaire, malheureusement.
Voilà, on va pas les critiquer quand même. Ils sont quand même de bonne intention, les enfants, avec Justin Morin.
Il est 12h41.
Europe 1.
On reste ensemble sur Europe 1 et dans un instant, Emmanuel Macron concentré sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le reste attendra. À tout de suite.
Il est 12h44 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et direction l'Elysée maintenant, Pierre, puisque là aussi, on est concentré sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Oui, dans le prolongement de l'allocution présidentielle d'hier soir, où finalement il n'a été question que de ça, avec des messages tout de même, en filigrane, l'appel à une trêve politique par exemple. Et puis sur Notre-Dame, l'exécutif souhaite un encadrement législatif. C'est ce que vient de préciser le Premier ministre Édouard Philippe.
Dès la semaine prochaine, nous présenterons en Conseil des ministres un projet de loi qui donnera un cadre légal à la souscription nationale que le président de la République a lancée. Ce projet de loi précisera en particulier les garanties de transparence et de bonne gestion que nous apporterons dans la gestion des dons. Une responsabilité que nous souhaitons confier à un comité que présideront le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées. Chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela et pas à autre chose.
Édouard Philippe qui précise aussi qu'il y aura le lancement d'un concours international d'architectes pour redessiner et rebâtir la flèche qui est tombée et qui s'est malheureusement effondrée dans ce brasier de Notre-Dame. Édouard Philippe au micro de Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Et puis l'allocution, la vraie, celle qui était prévue pour lundi soir. Elle avait beau être tenue secrète, on en a quand même eu la teneur à cause des fuites, suppression de l'ENA, aucune fermeture d'école ni d'hôpital d'ici la fin du quinquennat. Et puis parmi les mesures économiques, il y en a deux qui retiennent particulièrement notre attention, Anne-Laure Jumet. Il y a d'abord donc cette réindexation des petites et moyennes retraites.
Oui, c'est un sujet sur lequel le gouvernement a dû manger son chapeau. La désindexation annoncée fin août par Édouard Philippe permettait de faire des économies, mais voilà, les retraités ont beaucoup participé au grand débat et le sujet est beaucoup revenu sur la table. L'arbitrage rendu, c'est donc de cibler les petites et moyennes retraites en dessous de 2000 euros par mois. Alors attention, cette année, pas de changement. Les pensions n'augmenteront que de 0,3%. La modification n'interviendra qu'au 1er janvier prochain. À ce moment-là, ces pensions inférieures à 2000 euros se réaligneront sur le coût de la vie. Facture pour l'État, 1,4 milliard d'euros.
Emmanuel Macron parle de baisse d'impôts aussi pour les classes moyennes. Est-ce que vous en savez plus, Anne-Laure ?
Alors, pas encore totalement à ce stade. Dans l'allocution que le président avait enregistrée, il ne donnait pas plus de détails. Mais à Bercy, on défend depuis plusieurs semaines un scénario à 1 milliard d'euros. Les parlementaires En Marche, eux, sont plus gourmands avec une hypothèse de travail autour de 3 milliards d'euros. On verra les arbitrages. Côté financement, Emmanuel Macron évoquait dans cette allocution la nécessité de travailler davantage, ça demande encore à être précisé. Il appelait aussi à la suppression de niches fiscales, reste à savoir lesquelles. À Bercy, on pointe déjà du doigt une niche, l'investissement locatif, qui profite surtout aux ménages les plus aisés.
Merci Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1.
C'est une page de la politique française, Pierre, qui vient de se tourner. Jean-Marie Le Pen a fait ses adieux au Parlement européen hier.
Oui, après 35 ans de mandat, 35 ans de lutte contre l'Europe. Adrien Beck était à Strasbourg hier soir.
Face à un hémicycle vide et silencieux, les derniers mots de l'eurodéputé Jean-Marie Le Pen furent sans surprise contre l'Union européenne et son Parlement, insensible selon lui à la menace migratoire.
L'Europe se révèle impuissante. Député qui est de rester aveugle, sourd et muet, la postérité vous maudira.
Quelques minutes avant, entouré d'une poignée de proches, l'ancien patron du FN est revenu sur ses 35 ans de mandat. Ici, beaucoup se souviendront des affaires d'assistants présumés fictifs. Jean-Marie Le Pen préfère retenir un sentiment d'inutilité.
Ici, nous sommes dans un moulin à vent. Et comme le meunier d'Alphonse Daudet, nous ne charrions dans notre brouette que des sacs de sable.
Lui parti, le combat continue, veut croire le patriarche qui adresse ses encouragements à sa fille Marine pour les élections européennes.
Monsieur Macron, en plus, lui a fait le cadeau de présenter le combat comme étant un duel entre lui et Marine Le Pen. Eh bien, de ce duel, je souhaite de tout mon cœur que ce soit Marine qui soit victorieuse.
Soutien clair, mais le fondateur du FN prévient, ne plus être député ne m'empêchera pas de m'exprimer.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1 au Parlement européen de Strasbourg. La mère et deux sœurs du djihadiste de Trèbes et de Carcassonne placées en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à savoir si elles ont ou non joué un rôle dans la radicalisation de cet homme qui notamment avait exécuté le colonel Beltrame. Une enquête ouverte à Grenoble. Apparemment, les dealers de drogue ne reculent devant rien. Ils avaient mis en ligne une tombola avec à la clé une vidéo sur Snapchat. Pouvaient y participer les acheteurs de cannabis. Le gagnant remportant une console de jeu. Malheureusement, le parquet affirme que ce n'est pas une première.
Il est 12h49. Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Une nouvelle pause est dans un instant entre l'Ajax et la Juve. Eh bien, c'est l'Ajax qui gagne. Les sorties ciné à suivre aussi, bien sûr, puisque c'est mercredi. A tout de suite.
Il est 12h51 sur Europe 1, vous écoutez le journal de Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Avec le foot, Pierre, et une surprise en Ligue des Champions.
C'était les quarts de finale retour hier soir, et on va dire assez logiquement le Barça a éliminé Manchester United 3-0. Moins logique en revanche, l'élimination de la Juventus Turin par l'Ajax Amsterdam. 2-1, le gros s'est fait manger par le petit Christophe Lamar.
Oui, et le petit a encore de l'appétit, on le croyait repu après avoir sorti un autre gros au tour précédent, à savoir le Real Madrid. C'était une erreur, l'Ajax n'en n'a pas fini avec la Ligue des Champions. Un peu médusé, l'Europe redécouvre un club qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire pour au moins deux raisons. Le palmarès dans la compétition phare, 4 Ligues des Champions, ce n'est pas rien, mais son empreinte tient aussi à sa philosophie générale. Le football total, le jeu, rien que le jeu, une doxa portée par l'icône Johan Cruyff. Certains voient dans les Frenkie de Jong, David Neres ou encore Matthijs de Ligt, les petits-enfants de Maître Johan. Les Néerlandais s'ouvrent donc la route des demi-finales et à l'allure où ils foncent, on se demande si Tottenham ou Manchester City ont les moyens d'arrêter le bolide. Pour la Juventus, au budget 6 fois plus important, c'est une claque sportive et financière. Le titre abandonnait plus de 17% à la Bourse de Milan ce matin. La Juve milite d'ailleurs pour une réforme de la compétition qui laisserait peu de place aux petits championnats, donc à des clubs comme l'Ajax, au bénéfice des équipes plus riches. Ça éviterait les mauvaises surprises. Être battu, oui, mais par un plus petit que soi, c'est quand même un peu la honte.
Merci Christophe Lamarre. Les deux derniers quarts de finale ce soir, Porto, Liverpool et Manchester City, Tottenham et puis Nantes reçoit le PSG au stade de la Beaujoire en match en retard de la 28e journée. C'est ce soir à 19h.
C'est mercredi, c'est cinéma. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
Alors, on commence avec Raoul Taburin.
Eh oui, vous savez, adapté de la bande dessinée de Sampé qui date d'il y a quelques années maintenant, milieu des années 90. Alors Raoul Taburin, dans le film, il est joué par Benoît Poulvorde, très célèbre dans son village, Saint-Céron et ses environs. Parce que c'est un orfèvre du vélo, il les bichonne, les répare, les chouchoute. Il est tellement respecté pour ça d'ailleurs que dans le coin on ne dit pas un vélo mais un Taburin. Problème, Raoul Taburin ne sait pas faire de vélo. Et oui, il en est incapable. Alors depuis qu'il est tout petit, il use de subterfuges pour ne jamais se retrouver à vélo. Sauf que débarque dans le village un photographe, il s'appelle Hervé Figougne, il est joué par Édouard Baird, qui lui veut immortaliser Raoul Taburin sur son vélo.
Eh oui.
Évidemment, cette photo va chambouler tout l'équilibre de notre Taburin, équilibre d'ailleurs sur le vélo, mais aussi l'équilibre dans sa vie. On retrouve la douceur, la nostalgie, une partie de la poésie aussi de Sampé dans ce film, qui vaut aussi et surtout, franchement, par le duo Édouard Baird-Benoît Poulvorde, qui est formidable.
Et puis votre deuxième choix, Mathieu, un polar qui s'appelle Alpha, The Right to Kill.
Exactement, qu'on pourrait traduire par le droit de tuer. Vous savez, les meilleurs polars, ce sont ceux souvent qui décrivent un pan de notre société, du monde dans lequel on vit, et c'est le cas de ce film. Briente Mendoza l'a réalisé alors que le président philippin, Rodrigo Duterte, entamait sa campagne d'extermination des trafiquants de drogue. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans le film, montrer comment le pouvoir a tué, sans autre forme de procès, des Philippins accusés de trafic de drogue. 7000 exécutions, selon les chiffres officiels, le double pour les organisations de défense des droits de l'homme. Alors le film nous emmène dans les dédales de Manille, où on ne sait plus très bien qui sont les gentils ou les méchants, les flics corrompus, les honnêtes, les trafiquants de drogue violents, ou certains qui dealent finalement pour pouvoir juste acheter du lait à leur bébé. Alpha est un film qui est tout en nuances, qui a reçu le prix du jury d'ailleurs au dernier festival du film policier de Beaune. Allez-y, je mets 3 étoiles sur 5 aux deux films.
Bravo.
Il est 12h55.
Europe 1.
Et on reste ensemble, on retrouve Pierre pour les grands titres évidemment dans quelques minutes et on va révolutionner, et rien que ça, nos assiettes aujourd'hui parce que c'est le monde de la cantine qui bouge. On vous attend 3921 et Twitter, hashtag Europe 1.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec Elena Morna, une très belle journée et un très beau week-end de Pâques.
Belle, lumineuse et de plus en plus douce, voire chaude cette fin de semaine jusqu'à lundi. Le soleil prend déjà l'avantage cet après-midi, sauf c'est vrai sur le golfe du Lion. Là, on a le vent marin qui est porteur de nuages. Et attention, demain, ce sera le vent d'OTAN qui va se renforcer, qui sera assez fort d'ailleurs. Alors sur la façade atlantique, c'est un ciel voilé mais lumineux. Sur les autres régions de l'Est, c'est souvent bleu le ciel. Sauf sur le Nord-Pas-de-Calais, là encore une petite nuance. Ce sont les nuages qui s'adartent avec très localement une toute petite averse à la clé. Les températures, elles prennent déjà des couleurs, des allures estivales même à Brest avec 20 degrés. Ou comme à Paris d'ailleurs, 24 à 25 degrés au sud de la Garonne. 23 pour Montluçon au cœur de la France, 21 à Rennes ou encore à Lyon, 19 à Rouen, à Vesoul, à Dijon, 18 à Strasbourg et Marseille, 14 à Dunkerque. Mais là, les températures vont aussi monter jusqu'à 20 degrés demain. Pour le week-end, la moyenne sera de 24 degrés au nord, 23 degrés au sud. Le sud où on aura quelques petits passages nuageux de temps à autre.